Les Gones.
Une émission sur Lyon.
Présentée par Thomas Lacombe
et toute sa bande.
Bonjour et bienvenue, chers auditeurs. C'est le 15e numéro et fini les gonneries. Tout rentre dans l'ordre. Il y a deux semaines, pour le 1er avril, Florent prenait les commandes de cette émission. Vous parlez de son amour, de la crier sans hausser le ton, se piquer. Pardonne-moi, Florent. J'essaye de m'inspirer de tes blagues d'ictiologue. Il y a deux semaines, pour le 1er avril, tout le monde jouait au jeu des chaises musicales, mais sur la sarabande d'Handel parce qu'on est vraiment badass. Il y a deux semaines, pour le 1er avril, je devenais chroniqueur et j'apprenais que c'est un métier. La preuve.
Exposition met actuellement à l'honneur un capital.
Un capital
des Lyonnais. C'est des Lyonnais qui sont à l'honneur à capital.
Alors, c'est une expo dans un musée, genre le Louvre, genre c'est un musée d'art. C'est dans un musée d'art.
Voilà, alors vous remarquerez que le seul musée que je semble connaître, c'est le Louvre, hein, ce qui me donne la même culture qu'un touriste chinois ou un prince d'Abu Dhabi. C'est dire, mais attendez, il y a pire.
Donc une loi bien particulière a été déposée à l'Assemblée nationale le 1er avril 2003.
C'est une loi qui concerne toute la France ou spécifiquement Lyon?
Ben voilà, connard, c'est ça. Comme si on prenait souvent des lois spécifiques sur Lyon.
C'est ton côté médiéviste, je pense. Tu peux pas t'empêcher.
Je pense pas, oui. Et donc ça a foutre à l'Assemblée finalement. Oh, et si aujourd'hui on prenait juste une loi pour Lyon? Demain, et si on faisait une loi spécialement pour Montélimar? Faut réglementer la taille de leur nougat, hein. Ça va plus. Et puis vendredi, oulala, programme chargé. On doit examiner le projet de loi spécifiquement sur la taille des craies au Puy-en-Velay, la couleur des bêtises de Cambrai et le nombre des vaches à Autun. Non mais vraiment, je me suis rendu compte grâce au 1er avril que chroniqueur c'était un métier et visiblement ce n'était pas le mien. Bon, alors comme dit le proverbe berrichon, changement d'herbage réjouit les veaux. Pour les plus jeunes hein, qui nous écoutent, ce dicton du Berry, ça vaut à peu près hein, cet autre dicton de Corrèze, celui-ci. Le changement, c'est maintenant. Bref, je fais aujourd'hui mon coming out socialiste. Le changement, c'était il y a deux semaines et maintenant, c'est terminé. Donc, pas d'évolution pour cette émission. Pendant une heure, on parle de Lyon. Actu, sortie, association. En fin d'émission, c'est l'association écolo Ezenia que nous recevons. C'est à découvrir. Tout à l'heure, et pour m'accompagner, hein, deux drôles d'individus qui permettent, au moins, c'est déjà ça, de vérifier cette phrase d'Adrien de Courcelles. Le couple est une réunion de deux personnes qui font rarement la paire. D'abord, un gone qui, l'espace d'une émission, s'est vu calife à la place du calife, et avec beaucoup de talent, je dois dire, quand même. Hein. Plus drôle dans le rôle d'Isno Good que Michael Youn, faut dire, il n'y a pas vraiment
c'est
de mal.
C'est pas très difficile.
Sorte de Florence Foresti poilu, l'homme éminence sans son slip kangourou, quoique, mais avec de l'humour plein les poches, Florent.
J'adore quand tu ressors des citations des années 80, notamment le slip kangourou éminence, je pense que ça n'existe plus, tu vois, je suis...
Oui, oui, n'essaye pas de dire, on sait que tu en portes. Ensuite, une fenote, et oui, parce que j'ai appris très récemment que pour ces demoiselles lyonnaises, c'est ainsi qu'il fallait dire, pas gone, fenote, merci Mathieu, une fenote, disais-je. Et d'ailleurs, ça me réjouit, hein, parce que fenote, ça rime avec bergamote, bigote, chypriote et monozygote, ce qui constitue tout de même une bonne description de l'équipe des gones. Une fenote, donc. Élue Miss Déroulage de Capote 2013, la despote de Transistor, une vraie pote, qui, devant le résultat des départementales, s'est dit, faillote, qu'il était temps de devenir patriote, la femme Barbara Gould de ce couple du jour, Marie.
Bonjour Thomas, mais arrête de faire des rimes, sérieusement.
Les rimes et Barbara Gould et Éminence, quand même, enfin genre,
c'est trop là, Thomas.
Retour
c'est
vers
trop.
Le futur, là, complètement.
Il y avait une thématique. Hein. Et oui, je tiens la chandelle, du coup, entre l'homme Éminence et la femme Barbara Gould, parce que Marie, notre experte en roulage de quenelle sous les aisselles, et Mathilde, notre experte en on ne sait toujours pas, ne sont pas là. On les embrasse. Romain, notre envoyé très spécial dans le monde du sport lyonnais, bah, il n'est pas là non plus, mais lui, c'est habituel. Il vous parlera tout de même de foot, de basket ou d'odeur d'après-match grâce à Florent. C'est la première fois, hein, Florent, que tu vas lire la chronique de Romain. Tu as prévu un entraînement particulier. Comment ça
Je me suis échauffé les muscles des joues toute la matinée.
D'accord, et tu voilà. Penses que ça marche, ouais.
Oui, alors mon entraînement consiste en faire blablabla comme ça pendant des heures, c'est excellent.
Alors d'habitude, c'est Marie-Ève qui est la lectrice attitrée hein, de Romain. Qu'est-ce que ça te fait de passer derrière elle?
Bah, je suis sûr que je réussirai mieux les accents, quoi qu'il arrive.
D'accord, très bien. Bon, et pour l'instant, il est l'heure de commencer cette émission, l'actualité nous appelle. l'actu, donc on va jouer avec l'information locale. Marie va continuer à vous raconter l'histoire de Lyon. Florent, pour la première fois, donc, passera dans le vestiaire du sport lyonnais. Mais avant d'enfiler deux rugbymen et de causer avec ses crampons, inversement, il se change et vous livre le point de vue d'un gone sur l'actualité nationale. Bon alors, les fables de La Fontaine, c'est pas mal. Les fables d'Ésope, c'est pas mal non plus. Mais les fables de Tonton Méluche, lues par Florent, c'est bien mieux.
Alors aujourd'hui, les enfants, nous allons lire une magnifique fable d'extrême gauche, Les idiots malades de la peste brune.
Oui, oui.
Un nom qui répand la terreur. Nom que le beauf en sa fureur invoqua pour punir les crimes politiques. Le Pen, puisqu'il faut bien nommer ce sympathique tribun qui peut, en une phrase bien tournée, insulter les bougnoules, les youpins, les niaqués, faisait aux étrangers la guerre. Il n'était pas, loin s'en faut, sa seule cause de colère. Il insultait un jour les smicards sans complexe qui profitent du système pour s'envoyer en l'air aux frais des bons Français. Et le lendemain, le sexe dépravé éveillait son courroux. Pédés éphimères, gouines, bi et transsexuels le laissaient perplexe. Cependant, entre deux ires poujadistes et la torture d'Algériens au fond d'une mansarde, ce Duce de chez nous avait, à la hussarde, mis enceinte de ses œuvres son épouse nudiste. Dorénavant établi, le pater familias envoya ses rejetons diriger ses bidas. Il expédia au front et simultanément, Fifi comme patronne et Marion comme lieutenant. Tout semblait être en ordre et loin des aigreurs du monde, notre homme reposait ses fureurs. Tout allait pour le mieux. Ils vendaient bien leur soupe et le mouvement de Popa avait le vent en poupe. Faux chiffres et beaux discours, emprunt russe, mauvaise foi, rien ne pouvait arrêter la moissonneuse à voix. Surtout pas le monarque de la jungle politique, mouflon plutôt que lion, piètre figure de roi. Aux ambitions du clan, il n'y avait plus de bornes et l'on prenait le vieux à rêvasser tout haut, scrutant le ciel bleu de son regard borgne.
Bientôt la police pourra tirer le négro sans qu'on ne l'inquiète comme à Ferguson. Et quand je parlerai de détails de l'histoire, je ne me ferai plus condamner par personne. On mangera du cochon matin, midi et soir. Mon sang débarrassera de ces idées rances et cosmopolites notre beau pays de France.
C'est pas du tout ça, mais l'imitation visuelle que vous ne pouvez hélas pas voir, chers auditeurs, est réussie. Le côté borne, très bien.
C'est cela, à voix haute, que répétait l'ancêtre. Et dans sa main déjà croissait le poids du sceptre. Mais le malheur arrive quand on ne l'attend pas. La tragédie commence. Un désaccord tactique empêche le parti de marcher au pas. D'un côté, la Fifi se pense plus habile, en charmant et rusant, paraissant indolore. La nièce et Popa trouvent qu'elle se défile et veulent tout brûler à la flamme tricolore. Il s'en faut de peu qu'ils n'en viennent au point. Une vraie tragédie grecque, les PD en moins. De cette histoire terrible, je ne sais pas la fin. Mais cette querelle interne qui aura sur plus d'un, il ne faut pas que nous en soyons les dupes. Les filles bleu marine n'ont plus d'un tour dans leur jupe. Elles savent faire autre chose que poignarder dans le dos. Elles se souviennent parfois qu'elles ont le même credo. Et Jean de La Fontaine l'aurait trouvé passable. Selon que vous serez blanc ou bien noir, les juges vous feront puissant ou misérable. La morale est bien simple, il n'est jamais trop tard pour résister aux cons. Sans une hésitation, il nous faut fermement écraser du talon la bête immonde qui monte au mât de l'étendard.
Allez, après l'actualité nationale, on change d'échelle pour faire plaisir aux géographes, hein, oui, évidemment. Et on parle de ce qu'il se passe à Lyon et dans sa proche région avec cette question... D'avril à octobre, la capitale des Gaules accueille un festival mondial. C'en est même la première édition. À Lyon, pendant plusieurs mois, va se dérouler donc le premier festival mondial de...
L'échangisme.
Non. De quoi ?
Ouais, mais si c'est la première édition, c'est difficile. Bon, du coup, j'imagine que c'est pas encore une de ces biennales de danse, de musique.
Peut-être que ça deviendra une biennale, mais pour l'instant, c'est la première édition. Voilà. Alors, l'objet de ce festival qui se déroule...
L'andouillette.
Non plus, non. C'est pas gastronomique, en fait. Ça se déroule
c'est
dans notre...
C'est ni gastronomique, ni de l'échangisme, et c'est quand même à Lyon.
Eh oui, oui,
il y a
oui,
d'autres
oui,
choses,
oui,
d'accord.
Oui, parce
incroyable.
Que c'est jusqu'en octobre, et c'est quelque chose qui fait partie du savoir-faire lyonnais depuis longtemps. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. C'est moins connu dans le savoir-faire lyonnais, mais pourtant, internationalement, on sait que ça fait partie du savoir-faire lyonnais.
Ta gueule, Thomas.
Comment je le prends, cet attentat ?
L'imprimerie ?
Alors, c'est pas l'imprimerie.
Le centre mou.
Le centre mou, c'est-à-dire,
le
Pierre,
festival du centre
invité.
Mou. Bah, les Lyonnais sont réputés pour être des centristes mous. Donc le festival du centre mou, je te propose.
Ça se rapproche assez du festival de l'échangisme, quand même.
Ça se rapproche assez.
Dans le centre mou, il y a un, tu vois.
Je suis désolé, Pierre, ce n'est pas le centre mou. Le moment phare de ces 6 mois, ça sera les week-ends des 29, 30 et 31 mai prochains, notamment au Parc de la Tête d'Or, avec une parade et tout un tas de manifestations prévues. Mais pourquoi ?
Contrefaite des Lumières, en plein.
Et en plein jour, et en plein jour.
Mais t'as pas dit que c'était en plein jour, ça se trouve c'était en pleine nuit, il faut être précis un peu.
La Vierge, une autre spécialité lyonnaise, la Vierge.
Non, alors peut-être qu'avec un indice, vous serez sur la voie.
L'emmerdant, c'est la rose. L'emmerdant,
c'est quoi ?
C'est la rose.
L'emmerdant, chante.
C'est la rose,
ça détient.
Bah, festival de la rose, je suppose.
Eh oui, Pierre, c'était ça. Effectivement, d'avril à octobre, la ville de Lyon va se parer de roses. La presqu'île sera particulièrement à la fête, avec des milliers de roses installées sur les places des Jacobins, de la République et des terreaux.
Des nouveaux endroits où vomir après vos soirées. Les bacs à roses de la place des Jacobins.
La cour de l'hôtel de ville sera métamorphosée en jardin géant, hein, paré de 1200 rosiers. Fin mai, hein, la ville accueillera également le 17e congrès mondial des sociétés de roses, ça existe.
Rassemblant pour l'hôtel plus... de ville, ça s'appelle l'épine et le colon comme événement. C'est bien connu.
600 professionnels venus des quatre coins du globe.
Non, mais tu m'avais dit que les roses, c'était la spécialité de Provins. J'aurais jamais pu deviner que c'était une spécialité de Lyon
bien,
aussi.
Il faut que Provins, ils revendiquent des choses de temps en temps. Tu vois. Depuis les foires du 13e, ils n'ont plus rien. Donc, les roses, pourquoi pas.
Tu me lances, Marie. J'ai un coup de gueule à pousser. Lyonnaise, lyonnais, vous n'aurez pas l'Alsace et la roseraie. Vous vous targuez déjà d'être les inventeurs du cinéma, de la tarte à la praline et de la poularde demi-deuil.
Ce qui est vrai.
De l'échangisme, rajoute Florent. La rose en France, je le dis haut et fort, ce n'est pas Lyon, c'est Provins. Non mais oh. Et oui, vous le savez, la capitale des cœurs des comtes de Champagne, au lieu de foire, très obsèque. Que vous avez remplacé Lyonnais dans cette fonction économique à partir du 14e siècle, bande de copieurs opportunistes. Pour la rose, la légende veut... Et comme je suis provinois avant d'être historien, je prends cette légende pour argent comptant. Que ce soit Thibaut de Champagne qui a ramené deux croisades, la rose de Damas, à partir de laquelle toutes les roses européennes auraient été créées.
Oui.
La mère de toutes les roses.
Il l'a ramené à Provins, pas à Lyon. Alors, ok. Pour se justifier, le Gérard Collomb, qui ressemble autant à un jardinier que son ami DSK ressemblait au gendre idéal, a rappelé que Lyon a longtemps été considéré comme la capitale des roses, accueillant près de 15% de la production mondiale au cours du 19e siècle. Aujourd'hui encore, 50% des créateurs européens de nouvelles roses seraient lyonnais. Merci Chaim. Non, je le répète, en France, la rose, c'est Provins. Je me tourne d'ailleurs vers l'historienne attitrée de la bande. On est bien d'accord avec ça, Marie. Hein.
Je répondrai donc que les roses sont à tout le monde. Fac.
J'aime cette prise de position. Les roses sont à tout le monde, mes frères. Un débat apaisé.
Une rebelle sur Transistor, mais bon, puisque tu as pris la parole, hein, puisqu'on parle d'histoire, c'est l'heure de ta chronique, Marie. Alors, au jeu des chaises musicales, hein, il y a 2 semaines, Marie-Ève, qui t'ont remplacé, en était restée à la Révolution.
Donc, très juste.
Je me dis que du coup, on va aborder le 19e siècle.
C'est très logique.
On vérifie après un jingle.
Je vous préviens aujourd'hui, j'ai ramené une pote. Cette pote, je l'appelle mon envie de chantonner. Mais je suis pas là pour raconter ma vie. Je suis pas là pour raconter ma vie. Donc on va commencer. Bref, dans le dernier épisode, Marie-Ève vous disait qu'à la Révolution, Lyon a perdu son nom. 21 août 1794, la Convention nationale envoie 2 mecs pour réorganiser la ville. Les mecs s'appellent Louis-Joseph Charlier et Pierre Pomponne Amédée Pochol.
Ah,
Pierre
ça,
Pomponne
noms, hein.
Amédée, j'ai besoin de commenter. En tout cas, les deux Gus rendent son nom à... Chut. La ville dont on ne doit pas prononcer le nom. Oh ta gueule.
Oh,
la Révolution, c'est déjà fini. Bonaparte ramène la stabilité politique et économique. Il fout son tonton Joseph Fesch sur le ciel épiscopal. Il réduit la liberté de la presse. Bref, les Lyonnais se le kiffent bien. Bonaparte, c'est Napoléon. Et comme le mec a que ça à foutre, il décide de se faire construire des palais impériaux dans toutes les villes de France. À Lyon, le projet est lancé en 1804. Le mec a vu Confluence, il s'est dit... tiens, si je prenais toute la presqu'île de Perrache à la Confluence et que j'y foutais un palais et des jardins juste pour moi. Mais à part ça, Napo était pas mégalo. De toute façon, on s'en branle, puisque ça s'est pas fait. Je vous ai dit que les Lyonnais kiffaient l'empereur. En 1815, après sa chute, le mec s'échappe de l'île d'Elbe et envahit à lui tout seul, avec 30 canons et ses troupes, la France. Le 10 mars, il est à Lyon. Histoire de faire le con, il passe ses troupes en revue place Bellecour. En partant, il déclare « Lyonnais, je vous aime ». Lyonnais, je vous aime.
Oh non.
Lyonnais, je vous aime.
Même moi, j'aurais pas osé.
Ah putain, il y en a marre de se le bichonner. Bon, du coup, les Lyonnais se font troncher quand reviennent les rois de France à la Restauration. Si vous aussi, vous aimez vous faire troncher, ben c'est que le début. Bah, 1827, on entame la première ligne ferroviaire pour voyageurs de France. Elle relie Lyon à Saint-Etienne. J'ai vu ça, j'ai rigolé. Je me suis dit, comme si des voyageurs voulaient sérieusement aller à Saint-Etienne. Pour ceux qui suivent pas, je rappelle qu'à Lyon, l'industrie, c'est la soie. Au 19e, Lyon entre en révolution industrielle. Joseph-Marie Jacquard, né à Lyon, mort à Oulin, je vois ça, je me dis qu'on a la mort qu'on mérite, invente un métier à tisser. Soyez pas cons et devinez, ça s'appelle le métier Jacquard.
Oui.
Attention les yeux, le truc déménage pas mal. C'est semi-automatique, avec des progressions de bandes, par va-et-vient et par à-coup. Moi, je sais pas si j'aimerais. Les mecs peuvent s'en servir seuls, ils se passent de leurs femmes qui souvent les assistaient dans ces tâches-là. Sinon, Internet m'affirme que le métier Jacquard est un des ancêtres de l'ordinateur. Et puis quoi encore ? Bref, le métier Jacquard apporte pas que des plaisirs secrets. Les canuts, les ouvriers de la soie, râlent. Ils ont dit « à mort le capitalisme !» En fait, les revendeurs de soie se faisaient toujours du fric sur le dos. Ils ont dit « il y en a marre de ces machines qui viennent piquer notre boulot !» Et ils ont détruit des métiers Jacquard. Ça s'appelle les révoltes des canuts de 1831 et 1834. Les mecs gueulent, vivre libre en travaillant ou mourir en combattant. Ça veut pas dire travailler plus pour gagner plus. Hein.
Non.
Les mecs défendent leur droit de travailler dignement. À Paris, le gouvernement rigole pas. Il envoie Adolphe Thiers. Adolphe Thiers prend la ville, Adolphe Thiers réprime l'insurrection, on appelle ça la sanglante semaine. Toute ressemblance avec des faits se déroulant ou s'étant déroulés dans la commune de Paris en 1871 est parfaitement fortuite et ne saurait être imputée à l'ironie de l'histoire.
Allez, on revient en 2015 avec cette question. Selon un palmarès publié récemment, Lyon serait la 64e ville mondiale
de l'échangisme.
Non.
Bah non, la première, ah, Florent.
Et la quatrième ville française, oui, mais pour quelle raison? Et non, ce n'est pas l'échangisme une énième fois.
Pour les week-ends, les courts séjours, les...
Non,
c'est une question déjà posée, ça.
Et c'était la première, en plus. Non, là, on parle de 64e ville mondiale, quatrième ville française. Mais alors, pourquoi? Quelle raison?
Pour le nombre de gares qu'il y a dans la ville.
Ouais, le maire qui a un nom rigolo.
Oui, pourquoi?
Colomb.
Mais alors, qui serait le premier?
Colomb, capitale de l'andouillette. Je sais pas, un mec qui s'appelle Poisson, quelque part.
C'est un palmarès, hein, des grandes villes du monde, qui est publié chaque année par le groupe, c'est un indice, Tom Tom. Lyon, il est... Lyon est désormais...
Et Nana.
C'est là où il y a le plus de Nana. Non, mais du coup, ça se tient avec l'échangisme, on est d'accord.
Et on est d'accord. C'est logique. Viens, Florent, on y va tout de suite.
Lyon est désormais la quatrième ville dans ce classement après avoir été longtemps...
Ah, c'est celui qui a le plus de GPS.
Ah, on se rapproche avec le GPS, oui, Tom Tom.
Les
c'est
gens
bien
les plus cons qui savent pas s'orienter.
Constructeur de GPS, mais donc on est dans quel domaine?
Qui grille le plus les radars?
Non.
Qui ont
mais...
le plus de bouchons dans les tunnels?
Ah, presque.
Ce qui a un lien avec l'échangisme toujours et avec le fait que le mec s'appelle Colomb quand même. Les bouchons dans les tunnels, on est d'accord, c'est marrant.
C'est pas que dans les tunnels en fait. Lyon est la quatrième ville française pour les bouchons, effectivement, la plus embouteillée. La quatrième la plus embouteillée avec 27% de taux de congestion. Cette année, c'est toujours Marseille.
C'est Marseille qui gagne.
C'est Marseille qui gagne comme souvent en fait. Après, il y a Paris et Bordeaux qui vient juste de passer devant Lyon qui était troisième avant. Et donc,
mais
c'est
à
bien...
Bordeaux, embouteillé, c'est drôle aussi, on peut le dire. Il faut souligner les trucs comme ça.
Et donc, cet équipementier de GPS, la Tom Tom, il ne parle pas que des villes françaises, il parle des villes mondiales. Et à ce titre, le top 3 des villes du monde les plus embouteillées, c'est Istanbul, Mexico et en troisième position, Rio. Voilà, dans ces cas-là, on est bien content.
Il fait pas de statistiques en Chine, je pense. Tu vois, il doit pas avoir le droit.
Je pense qu'il n'y a pas de statistiques.
Mais c'est ça, c'est comme les taux de pollution où on dit qu'on est plus pollué, alors que tu vois, clairement, Pékin gagne tout. Tu vois, je pense. Hein. On ne voit pas les immeubles. Enfin, les gens ne savent pas qu'ils sont chinois tellement c'est pollué. Tu vois,
mais... J'imagine, ouais. Bon, allez, sans embouteillage, celui-ci. C'est Florent qui nous conduit cette semaine dans les arcanes du sport lyonnais. C'est à lui que revient la lourde tâche de lire la chronique du spécialiste S-ballon de toutes les tailles, Romain. Et oui, il va y avoir du sport.
Et Exit Marie-Ève, c'est donc moi, Flo, le roi du banjo, qui vole la vedette de notre cuisinière adorée. Ouais. Et on commence avec le football et la très belle performance de l'Olympique Lyonnais féminin, qui n'a plus de match de retard et est donc premier au classement avec 80 points en 20 journées. Super. C'est-à-dire 20 matchs, 20 victoires, chapeau bas. Mais en levant l'Égypte et mettant des shots pour faire du football, les garçons de Lyon ne sont pas mal placés. Un non plus, avec la deuxième place du championnat de France à 7 journées de la fin, ils s'engagent donc dans la course au titre. Non mais je vous assure que c'est la vérité et pas un poisson d'avril en retard. On part du côté du ballon ovale, hein. Après s'être fait rouler dessus par Montpellier 4-5-17, le loup Aou doit sentir venir la relégation. Comme c'était du maroilles, hein. Pourtant, on n'attraperait pas dans sa chicorée.
Oui.
Attention, on finit le tour du monde. On part au basket chez nous, là. Vous autres savez que les Québécois préfèrent le basket, là. Pour sûr, en plus, les joueurs de l'Asvel ont gagné. Mais je te jure, là, contre Chalon, rang 106-88, pardon. Ils vont finalement peut-être pouvoir gagner le championnat. Et pour terminer, cette chronique à bras raciste, dont je signale encore une fois, je ne suis que l'otage, Romain m'a demandé de vous lire cette lettre ouverte. C'est solennel.
D'accord.
Thomas, mon frère, et vous autres gones, j'arrête.
Oh non.
Je ne m'enfuis pas, je vole. Oui, j'arrête les chroniques, je vais vous dire pourquoi. Je me doute que vos larmes commencent à couler et que la compréhension règne. Mais écoutez, vous, chers auditeurs, vous devez savoir que tous les jours, Thomas nous force à boire, comme lui, une bouteille de Chablis. Une par jour. Et s'il n'y avait que ça ?
On n'en parlait pas.
Il faut subir ces idées de concept d'émission farfelues, comme l'opération Christine.
Un succès.
Il faut subir ces repas et ces menus pour tous, comme la manif. Saucisson, andouillette et cassoulet tous les jours, sauf le dimanche où c'est salami.
Des classiques.
C'est devenu trop difficile pour moi. Adieu, je pars à Abidjan pour commencer une vie d'éleveur de chèvres. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais vous retrouverez très vite Romain qui vous a écrit une lettre de Poisson d'Avril en retard. Et d'ici là, n'oubliez pas, lavez-vous après le sport, sinon vous sentirez le capybara.
Et si on sortait, chers auditeurs, chères auditrices, pour ça, vous le savez, vous commencez à connaître l'émission maintenant, chaque gonne, et ils sont codés aujourd'hui, hein, va vous donner ses bons plans ou ses envies de sortie. Mais avant ça, on passe en cuisine. Alors, Marie-Ève n'est pas là, hein, je l'ai dit, pour une raison obscure. A-t-elle enfin été touchée par le Saint-Esprit ? A-t-elle testé un seul des repas qu'elle nous a décrit depuis début septembre et ça s'est terminé en indigestion ?
Elle les a tous testés en même temps, en fait. C'est ça.
Foudroyante la digestion, alors. A-t-elle tout simplement une formation doctorale ? Qui sait ? Bref, la princesse toquée au trône en boyau de cochon, cette fine gastronome qui nous avouait pourtant avoir sa carte de fidélité chez Burger King, sombre histoire. Cette Jeanne d'Arc alsacienne qui trouve étrange d'entendre des voix dans son casque de radio. Ce qu'on appelle le retour son, Marie-Ève, et qu'elle nomme la Vierge Marie. C'est étonnant au passage que la Vierge Marie verse dans l'humour potage. Bref, Marie-Ève n'est pas là. Et je vais la remplacer et lui rendre au passage le vibrant hommage qu'elle mérite. Je vais donc vous donner aujourd'hui le secret le mieux gardé de la cuisine lyonnaise, la recette de la chronique gastronomique de Marie-Ève.
Alors juste, j'ai eu très peur quand t'as dit que t'allais lui rendre le vibrant. J'étais... Je me disais vraiment, le Saint-Esprit l'a trop touché. Tu vois, c'est plus possible.
Prenez un plat bien gras à base de charcuterie, accompagné de charcuterie avec une sauce à la crème ou à la crème. Donc forcément un truc bien diététique et lyonnais. De préférence, optez pour les formes phalliques, celles des quenelles, du gros Jésus de Lyon et autres saucissons, sans oublier le petit triangle pané du tablier de sapeur parce qu'il en faut pour tous les goûts. Saupoudré d'un maximum de sous-entendus en 5 minutes, servi avec la plus feinte des naïvetés, sous-entendus qui seront bien sûr relevés et amplifiés par les deux mâles basiques de la bande, à savoir Florent, à côté de qui Jean-Marie Bigard est un enfant de cœur, et moi-même, qui postule comme doublure voix de poissonnière. C'est une niche, hein, chers auditeurs. Et je travaille presque exclusivement pour Chantal Latsou depuis la mort d'Arletty, paix à son âme. Notez bien qu'il faut noyer le tout dans un maximum de détails historiques pour faire sérieux et garder un semblant de dignité. Invoquez au moins une fois par chronique cette entité quasi-divine qu'est Nisier du Puy-Pelu, parce que son nom est encore plus drôle que celui de Catherine Bugnard. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de citer vos sources, à savoir Wikipédia, et le...
Marmiton.org aussi.
Et troisième, le Larousse de la cuisine de moment, gagné par Tonton Helmut le 23 mai 1988 sur FR3. Oui, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Indico, que dis-je ? Une encyclopédie gagnée chez Julien Lepers, qui était alors jeune et portait pourtant déjà les mêmes cravates et vestes immondes. Mais
à l'époque, c'était à la mode.
C'était à la mode et puis surtout, on lui pardonne parce que Julien Lepers, c'est aussi ça. Non mais c'est vrai qu'à chaque fois que Julien Lepers est invité dans les médias, on nous ressort le fait que c'est lui qui a composé pour le plaisir, pour Herbert Léonard. Ça va les mecs, c'est pas comme si c'était Julien Lepers qui avait composé Show Must Go On ou l'hymne à la joie. Hein. On se calme, c'est juste pour le plaisir. Et là vous vous dites, mais quel rapport avec la cuisine lyonnaise ? Aucun rapport, chers auditeurs, mais c'est exactement ce que fait Marie-Ève dans ses chroniques. Réécoutez-les, je vous jure, 50% de cuisine, 50% d'éléments que l'INSEE répertorie sous l'étiquette divers, et qui va des références bibliques au quiz sur les sapeurs de la Légion étrangère, jusqu'aux précisions géographiques étranges comme celle de l'existence de l'écluse de Nantua. Non mais, faut quand même lui trouver des excuses à notre Marie-Ève. La cuisine lyonnaise, hein, c'est un monde de fous, si si. Déjà, ils ne parlent pas comme nous. Dans le merveilleux univers de la gastronomie lyonnaise, les clapotons, ce sont les pieds de moutons. La courle, qu'est-ce que ça peut être la courle ?
Franchement, moi, je vais encore dire que c'est l'échangisme, donc arrête de me regarder quand tu poses des questions.
Presque ça, c'est un potiron. Les barabans, ce sont les pissenlits, le caillon. Qu'est-ce que ça peut être le caillon, à ton avis, Marie ?
Je sais pas, un morceau de viande bien dur.
Ah, presque,
du fromage.
C'est du porc.
C'est du porc.
Les goiffons, ce sont les goujons. Les pigeons ficelés, ce ne sont que des paquets de couennes. Rien à voir avec le volatile. Le pigeon, c'est sans doute vous. Et si la tête vous tourne et que vous appelez les pompiers, on risque fort de vous servir un mélange de vin, de sirop, de groseille et d'eau de zeltz. Un monde de fous, je disais. Un monde de fous, mais un monde assez simple à comprendre, finalement, chers auditeurs. Pour une bonne recette, il faut forcément de la viande et des pommes de terre. Enfin, des truffes, comme ils disent, à tel point que dans nombre de recettes hein, de boudin noir, vous savez, hein, c'est sympa d'avoir comme petit accompagnement des grosses pommes de terre aussi, eh bien les Lyonnais, les pommes, ils ne connaissent pas bien. Alors ils spécifient dans leurs recettes et on trouve à leur mention des pommes-fruits. Oui, c'est très primaire en fait la cuisine lyonnaise, proche des temps premiers, hein. Limite il y a quelque chose d'incantatoire. Pommes, fruits. Mettant en application hein, toutes ces constatations, je vous propose une recette avec des pommes terre, pardon, des truffes, en barboton, selon une recette de Nisier du Puy-Pelu dans son Littré de la Grand Côte, publié en 1800...
Béni soit son nom, que le salut
Amen.
Soit sur lui.
Publié en 1894. Et si je précise que c'est publié en 1894, c'est parce qu'il faut toujours un pseudo-détail historique vrai mais inutile pour faire sérieux. Vous comprenez comment elle fonctionne, Marie-Ève ? Bon, je continue. Pour cette recette, vous avez besoin de 150 g de lard, de 8 pommes de terre, classiques, pommes, terre, et Donc on est bien dans le registre de la recette lyonnaise. N'oubliez pas 12 morceaux de viande de bœuf découpée, histoire de ne pas du tout être redondant niveau viande. N'oubliez pas non plus 50 grammes de saindoux, parce que sinon ce serait vraiment trop light.
Parce que s'il n'y a que la graisse du lard, on s'ennuie.
Ah bah limite, sinon Weight Watchers récupère le bébé. Et puis il faut aussi 2 petits oignons, qu'il faudra émincer bien sûr. De la farine, thym, laurier, clou de girofle, et là, on est bon. Dans une cocotte. Vous faites fondre les 50 grammes de saindoux. Dans cette substance blanche, trempez votre lard et vos petits oignons. Vous avez saisi le sous-entendu, pourtant dit avec naïveté. 10 ans d'Acteur Studio, messieurs dames. Placez ensuite les morceaux de viande et salez, avant de laisser cuire à un feu très doux, environ 25 minutes. Vous saupoudrez de la cuillère de farine, vous laissez dorer. Mouillez avec un grand verre d'eau. Faites cuire encore 20 à 25 minutes. Après, vous placez les pommes de terre. Pommes de terre coupées en morceaux, vous couvrez d'un grand verre d'eau, thym, laurier, clou de girofle, c'est maintenant que vous les mettez. Enfin, vous laissez barboter pendant 30 minutes. D'où le nom de cette recette, les truffes en barboton. Bref, 2 recettes pour le prix d'une dans cette chronique, messieurs, dames. Celle de la chronique de Marie-Ève et celle des barbotons. Et tout ça sans augmentation du prix des consommations. Enfin, ce n'était pas tout à fait la vraie recette de la chronique de Marie-Ève, parce qu'il aurait fallu rajouter une andouille d'animateur qui met toujours son grain de sel et qui interrompt la pauvre chroniqueuse qui a bien du courage et surtout une sacrée dose de professionnalisme, en plus d'avoir une vraie belle voix de radio. Je t'embrasse fort, Marie-Ève, et reviens vite. Une seule lève vous manque et tout est dépeuplé. Allez, on quitte les cuisines, hein, des gones pour sortir dans Lyon. Oui, mais où ? Une idée peut-être, Florent, de sortie ?
Alors, moi, j'ai d'abord le 27 avril, ouais. Je compte aller au Comédia.
Ah bah,
où il
bien,
y a
ça, ouais.
Une projection de Sacré Graal des Monty Python.
Ah mais alors, génial,
sans
Sacré
les Monty Python, parce que bon, voilà.
Oui bah oui, normal. Bon.
Mais une projection donc sur grand écran, vu que c'est vraiment un chef-d'œuvre qui est fait pour être vu sur grand écran, ouais. Parce que l'intérêt c'est l'image et pas du tout le scénario. Alors, dans Sacré Graal, c'est connu, les plans sont vraiment magnifiques. Donc voilà, je vous recommande ce film.
C'est un film esthétique avant voilà. Tout, bien sûr.
Ensuite, ça sera commenté par Bernard-Henri Lévy.
Qui c'est vrai.
Non.
Tellement de premier degré.
Ça serait tellement drôle, t'imagines le truc absurde quoi. Enfin.
Alors on voit bien la philosophie médiévale à l'œuvre.
Ouais. Voilà, philosophie médiévale, serait... il a déjà du mal à voir avec la philosophie contemporaine. Alors médiévale, je sais pas s'il connaît honnêtement. Bon, le 27 avril en tout cas.
Voilà, le 27 avril au Comédia.
Ça c'est bien. Alors Marit, t'as une autre idée de sortie ?
Ouais, j'ai une suggestion cinématographique moi aussi.
Ah, alors, au Comédia ?
Non, pas,
au Comédia.
Enfin, ça peut être au Comédia, ça peut être où vous voulez en fait.
Où vous voulez, ça c'est cool.
C'est-à-dire que j'ai un très bon ami autour de la table. Alors je suis désolée, c'est pas toi Florent parce que tu es mon binôme échangiste. C'est pas toi Pierre parce qu'on ne se connaît pas encore assez. Donc chers auditeurs, je vous laisse deviner qui est le coupable. Qui m'a dit très récemment, voilà, va voir le film Shaun le Lapin, c'est très bien. Alors chers auditeurs, je rectifie. Ce n'est pas Shaun le Lapin.
Salope.
Shaun le Mouton. Voilà, mais c'est Studio Hardman, donc je suis sûre que c'est très bien. En plus, si c'est recommandé par Thomas, voilà. Ça doit être très bien aussi. Donc je pense que j'irai le voir.
Là, c'était le plan sorti de Lafayette. Mais il me semble que tu as un autre plan sorti. Je vois ça sur tes fiches, Florent. Tu
veux nous en autre part ? Mon autre plan sorti, c'est un plan pas sorti, en fait.
Ah, un plan
c'est
pas sorti.
À partir du lundi prochain. C'est plus la peine de sortir le lundi. Voilà, il y a Game of Thrones. Voilà.
Ah,
donc,
mais oui.
Moi, je reste dans l'ambiance médiévale. Donc là aussi, commenté par Bernard-Henri Lévy. Hein, donc tous les lundis, vous pouvez télécharger Game of Thrones commenté par Bernard-Henri Lévy en direct, de manière tout à fait légale sur son site Bernard-Henri Lévy commente gamethrones.com. Voilà, donc c'est plus la peine de sortir de votre vie. En fait.
Alors oui, parce que c'est diffusé pendant le dimanche aux États-Unis et en toute illégalité, vous pouvez donc télécharger le lendemain.
Vous vous abonnez à OCS.
Oui, c'est vrai. Oui, mais bon. Marie, je vais aller te voyer. Marie, tu aimes ça, Game of Thrones ? Parce que moi, je suis particulièrement client.
Alors, je n'ai jamais regardé. Je pense que
vous n'avez jamais regardé.
Et je supporte pas la vue du sang, donc je pense que c'est un peu handicapant pour Game of Thrones, tu vois.
Tu sais que ça, le nombre de gens nus qu'on voit compense les litres d'hémoglobine. Enfin, je veux dire, c'est tu vois. Si on peut faire une moyenne.
Tu peux faire la version censurée. Tu me laisses toutes les scènes de cul et puis tu me retires toutes les scènes de sang.
Tu peux faire Bernard-Henri Lévy devant toutes les scènes. Ah mon Dieu.
Un autre plan sorti sinon ? Parce que tu vas pas regarder Game of Thrones,
voilà,
ça je sens
pour
bien.
Ceux qui, comme moi, ne regardent pas Game of Thrones et qui auraient envie de profiter du beau temps.
Et dès lundi, du coup.
Mais pourquoi faire ça ? Non.
Mais si, j'ai vu que Nardone avait réouvert depuis un mois. Donc Nardone, c'est ce très fameux glacier à Lyon, dans le Vieux-Lyon, qui fait des très bonnes glaces. Tous les parfums, bon, juste vous allez arriver, vous n'allez pas quoi savoir choisir. Mais appelez Bernard-Henri Lévy.
En même temps, il y a 40 minutes de queue pour réfléchir.
T'es vraiment
comme dans les clubs échangistes.
Est-ce qu'en trois plans, il y a au moins trois plans sentis où tu nous conseilles soit des restaurants où il y a un super dessert de glace, là c'est carrément chez un glacier, t'es vraiment très glace en fait.
Oui. Mais finement observé, Sherlock.
Quel parfum particulier.
La reine des glaces, ça pourrait être ton nouveau nom. Ah, tu nous chantes libéré, délivré.
Let's go. Non, alors ce que j'aime beaucoup de parfums, mais quand j'ai beaucoup de choix, j'aime bien prendre un parfum complètement absurde. Donc chez Nardone, je prends un parfum à la rose, justement.
Ah, mais oui.
Aujourd'hui, c'est la journée vie de Marie. Bon, sinon, tu portes plutôt dentelle ou plutôt coton?
Tu es jaloux, c'est ça. Donc quel est ton parfum de glace préféré?
Non, est-ce que tu es plutôt dentelle ou plutôt coton, puisque c'est ta question?
Moi, je suis plutôt coton, mais parce que les sous-vêtements dentelle pour hommes, en général, ils sont pas en dentelle, ils sont en synthétique, donc ça gratte.
Ah, on voit que t'es connaisseur quand même.
Bah oui, je me suis renseigné un peu. Oui. Et par ailleurs,
Aranon aime ça, c'est Aranon.
C'est-à-dire que le problème de la dentelle, si on n'est pas épilé, c'est que quand même ça fait tout de suite, tu sais, patate avec les cheveux qui poussent dessus, tu vois, c'est pas classe. Voilà, je vous livre mon petit secret beauté.
Merci.
Dentelle, épilation ou coton. Voilà.
Bah, de bons conseils, comme d'habitude.
De bon ton.
Si vous reste un petit peu de temps avec tous ces plans sortis, tous ces conseils, même vestimentaires, vous pouvez trouver un petit peu de temps pour vous engager dans une association à Lyon. Il y a l'embarras du choix. On vous le démontre depuis septembre. On continue le temps d'un jingle avec une nouvelle association invitée au micro d'Egon. Donc aujourd'hui, on reçoit l'association Écolo et Zenia qui promeut le lombricompostage. En quelques chiffres, qu'est-ce que ça donne ?
Alors, date de création ?
Fin 2013.
Membres ?
Une soixantaine d'adhérents, une dizaine de membres actifs.
Et un budget ?
De 20 000 euros.
Alors merci Marie pour ce sous-entendu, merci Florent. Pour parler de cette association, c'est Pierre qui a pris place derrière le micro d'Egon. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors on a déjà entendu ta voix tout à l'heure pour cette idée de réponse qui n'était pas tout à fait juste, je le concède, mais qui était quand même drôle.
C'est fini de vanner l'invité là.
Oh. Non, je le vanne pas, je le complimente au contraire.
Oui, c'était pas tout à fait juste.
C'est lui qui a trouvé les roses.
Oui, c'est vrai. Donc réponse très
l'enregistrement
juste.
L'enregistrement peut en témoigner.
Suite à un indice où on entend les roses, oui. les roses, c'était pas trop dur ça.
Oui, mais moi j'y croyais pas. C'est le niveau qu'il faut pour mes chroniqueurs. Donc
ouais, bon, je vois ça.
Je m'adapte, excuse-moi Pierre. Alors d'où ça vient ce nom d'ailleurs? Je ne suis pas tout à fait sûr de bien le prononcer. On dit bien Ezenia?
On dit bien Ezenia, oui. C'est le nom d'un ver de terre un peu particulier parce qu'il mange la matière organique, donc les déchets. Il vit normalement soit sur des tas de fumier, soit en forêt. Et son rôle dans la nature, c'est de manger les feuilles qui s'accumulent au sol, de manger les fumiers, etc. pour pas que ça s'accumule.
Alors du coup, c'est un nom qui est évidemment très opportun, parce que je le disais, vous faites la promotion du lombricompostage sur votre site. Il y a même une vidéo très sympa qui vous explique ce qu'est le lombricompostage et tout ça en 20 secondes. Alors vous pouvez la voir, chers auditeurs, parce qu'on l'a mis sur la page de l'émission. Mais petit défi, donc Pierre, si vous le voulez bien. Mieux que le concours ma thèse en 180 secondes, mon lombricompostage en 20 secondes. Prêt?
Je peux peut-être le faire en 5 secondes et après en 30 secondes, je sais pas.
Eh bien alors, c'est parti.
Alors en 5 secondes, au lieu de jeter tes déchets dans une poubelle qui finira à l'incinérateur, tu le donnes à manger à des vers de terre qui en fabriquent du lombricompost que tu peux utiliser pour faire pousser des plantes.
Pas mal. Et en 30 secondes, ça donne quoi?
Donc en 30 secondes, c'est à peu près la même chose, mais pour préciser, tout ce que tu envoies comme déchets à l'incinérateur, donc c'est transporté, donc tu pollues à ce moment dans cet endroit-là. Tu le pollues parce que tu brûles des déchets qui sont constitués en grande partie d'eau, donc en gros, tu fais monter la température de tes incinérateurs pour envoyer en fumée, alors que c'est de la matière qui, depuis des millions, milliards, je ne sais pas combien d'années, passe ce qui se passe dans la nature, c'est que les déchets déchets organiques, donc ça va être le reste des animaux morts, ça va être les feuilles qui tombent, etc. C'est détruit dans la terre et digéré par les vers de terre et ça participe à la formation des sols. Donc si on a des sols qui arrivent à produire des choses, c'est parce que des vers de terre et leurs hôtes copains ont réussi à, depuis des années, à fabriquer des sols. Voilà, donc le lombricompostage, c'est juste une façon de domestiquer ça et de l'utiliser à nos fins, c'est-à-dire de manger nos déchets et de fabriquer du compost, du lombricompost.
Eh bien, parfait, Pierre, merci. Je rappelle les coordonnées de votre association.
Dis donc, Thomas.
Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Mais c'est un peu court, jeune homme.
Oh, on avait dit qu'on parlait pas de l'intimité de Thomas à l'antenne, Marie.
J'avais tellement envie de faire ça depuis le début qu'on fait une émission pour une de tes blagues que du coup j'ai écrit une blague que tu aurais pu dire.
C'est quand même
pour
vachement...
mettre le truc derrière. Tu peux pas savoir là, mais là je jouis derrière le micro, quoi, Florent. Vraiment.
Ah, merci. Sortir.
Rien que pour ça. Bon, alors plus sérieusement, Pierre, on redevient sérieux. Parce que, évidemment, qu'on va continuer l'interview et que tout ça c'est très sérieux. 355 millions. C'est le nombre de tonnes de déchets produits en France en 2010, selon les chiffres de l'ADEME. C'est énorme tout de même. 38,5 millions, c'est un peu plus de 10% qui proviennent de la collecte des déchets ménagers et assimilés. Le reste, hein, ce sont des déchets industriels et puis ceux du secteur économique. Sur tous ces déchets, seulement 13,8 millions sont incinérés avec récupération d'énergie. Bref, le traitement des déchets tel qu'il est aujourd'hui, Pierre, il est suffisant ?
Bien sûr, non. Bah en fait, on a une perte énorme de matière dans un monde où on sait qu'on n'en aura bientôt plus. Donc la matière, ça va à tout. Nous, on est spécialisé des matières organiques, mais de toute façon, en fait, les déchets, c'est juste de la matière qu'on a extraite de la terre ou
de quelque part, bien sûr,
de quelque part, et qu'on détruit, alors que c'est recyclable à l'infini. Tout est recyclable, en fait.
Et alors justement, le lombricompostage, c'est une solution au problème de ce traitement des déchets que vous décrivez comme insuffisant ?
C'est une partie de la solution.
Pourquoi ?
La solution est globale. Donc le lombricompostage, ça concerne les déchets organiques.
Ouais.
Donc reste de nourriture, reste aussi les cartons, papier, etc. Et effectivement, si on pense le problème différemment, enfin, si on repart plutôt, on va peut-être repartir un peu de l'histoire. En gros, jusqu'au fin du 19e siècle, on n'avait pas de poubelle, pas de problème de ramassage. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on fabriquait, c'était effectivement, ce qu'on jetait, c'était quasi que de la matière organique qu'on donnait à manger aux chiens, aux poules, etc. Voilà. Après, au bout d'un moment, on a commencé à fabriquer plus de choses et il a fallu organiser ça dans les villes. Et à l'époque, on s'en foutait, on n'avait pas les connaissances, etc. Donc on a organisé ça au plus pratique, effectivement, mise en décharge et puis plus tard, brûler.
Et on ne se disait pas que ça poserait un problème écologique. Il n'y avait pas cette conscience-là, ces problèmes d'effet de serre, réchauffement de la planète, tout ça, on s'en fichait. C'est pour ça qu'on faisait un petit peu au petit bonheur, c'est ça que vous
voulez
dire.
Voilà, donc en gros, on a fait ça. Et maintenant, on est sur ce système qui, au final, est vraiment récent dans l'histoire de l'humanité, où on jette tout, on brûle tout, on fait... Voilà.
Et qui est insuffisant. Et donc, vous dites, avec Ezenia, alors, en tous les cas, pour les produits qui peuvent nous intéresser, c'est-à-dire les déchets organiques, le carton, etc., nous, on a une solution, c'est le lombricompostage. C'est
exactement.
Ça. Et alors, quelle est la différence? Parce que, bon, je vais mentir, mais imaginons que je composte, moi, chez moi. C'est quoi la différence entre composter et lombricomposter?
C'est surtout une différence de technique. Après, le principe, c'est le même. Tu prends tes déchets et t'espères en obtenir un compost au bout.
Ouais, ouais.
Le lombricompostage, donc, c'est les vers qui s'occupent uniquement de manger...
Les fameux
qui s'occupent uniquement de manger les déchets. Tandis qu'en compostage classique, ce sera plus une réaction chimique liée à l'entassement. Donc, le travail après des bactéries et le travail de chauffe. Parce que si on entasse de la matière organique, au bout d'un moment, ça chauffe. Voilà, donc c'est moins rapide. Le lombricompostage, c'est plus rapide.
Et pour faire concret, parce que là on parle de trucs concrets,
ouais.
Est-ce que Pierre, vous avez le compost qui pue ?
En lombricompostage, non, on n'a pas le compost qui pue. Ce qui pue, justement, c'est la chauffe de cette matière entassée. Voilà.
Je note quand même que sur votre site, vous dites, il y a une légère odeur de sous-bois qui apparaît lorsque l'on ouvre son lombricomposteur.
C'est vrai.
Dit comme ça, c'est limite bucolique, mais en vrai, ça pue.
Non, en vrai, le lombricompostage, bien traité, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est une technique, donc comme toute technique, faut la maîtriser un minimum. Mais bien traité, il y en a pas mal qui font ça en appartement. C'est mon cas quand je je l'ouvre, ça
pue
pas.
Et vous avez encore des amis, du coup ?
J'ai encore des amis.
Bon. Et alors, puisqu'on parle de technique à maîtriser, comment on fait concrètement pour faire du lombricompostage ? On a besoin de quoi ?
De verre et puis d'un emplacement.
Alors, les vers, on les trouve où ?
Les vers, dans la nature, si on doit les chercher dans la nature, ça se trouve sur les tas de fumier ou en forêt, ouais. En surface. Hein, c'est un vers qui vient en surface.
Mais comment on sait que c'est... c'est n'importe quel vers qu'on prend ?
Non. Ouais. La plupart des vers que tu trouves naturellement, c'est les lombrics terrestres, un peu plus grands. Ouais. Donc là, c'est des petits vers spécifiques. Après, moi, je ne vous encourage pas forcément à aller en chercher dans les bois, sauf si vous avez plein de temps à perdre.
Oui, ça peut Après, être rigolo, ça peut être une sortie sympa.
Des gens qui en font l'élevage. S'appelle des lombriculteurs, notamment un lombriculteur avec qui on travaille beaucoup dans l'association.
Ouais, d'accord. Qui s'appelle comment ?
Qui s'appelle Lombriplanète.
D'accord.
Enfin, c'est une ferme lombricole. Ouais. Voilà. Du coup, les vers Eusénia, ils sont plus petits, plus rouges.
Ça coûte cher ?
Ça coûte 48 euros le kilo, si tu veux.
D'accord. Et avec un kilo, c'est suffisant pour commencer
Avec 500, si tu parles de lombricompostage individuel, donc chez toi.
Oui, chez moi, avec, par exemple.
Si tu habites à combien ? Dis-moi, à combien tu habites ? Tu habites tout seul ?
J'habite tout seul. Bah,
avec 250 grammes de verre, tu retraiteras tes déchets.
D'accord. Ok, donc là, 48 euros pour commencer, c'est largement bon.
Soit tu peux, t'as la solution de te fabriquer toi-même ton lombricomposteur, avec le risque que, comme toute technique, que tu te galères un peu, donc que t'aies les problèmes d'odeur, etc.
Voilà, surtout que je suis pas très bricoleur. Voilà. Alors moi, j'ai regardé sinon des lombricompostières dans le commerce, le bac en fait. On en trouve entre 80 et 180 euros.
Oui, c'est ça, c'est 80 euros en général, auquel tu rajouteras du coup 20 euros de verre, on va dire.
Et c'est gros, on peut mettre ça dans sa cuisine, donc tu disais.
Oui, ça fait comme une grosse poubelle, pas très haute, mais un petit peu large.
Et alors, qu'est-ce qu'on met dans cette grosse poubelle, pas très haute, mais un petit peu large ?
Tu mets tous tes restes de légumes, tes restes de pâtes, tes restes de carton, papier, etc.
Et qu'est-ce qu'on met pas ? Qu'est-ce qu'il faut pas mettre ?
Alors, il faut pas mettre, bien sûr, tout ce qui est pas matière organique. Il faut pas mettre tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson.
Ah, les viandes, on n'a pas le droit ?
Non. Ça va puer, ça va mettre longtemps.
Sous bois, là.
C'est sûr.
Charogne en décomposition.
Abattoir.
Et sinon, au niveau des légumes, quasi tout, sauf l'ail, parce que l'ail, c'est un vermifuge naturel, donc ça va tuer tes vers.
Alors, toutes ces explications concrètes, elles étaient nécessaires, Pierre, parce que le lombricompostage, mine de rien, en France, il n'est pas vraiment bien connu encore. C'est pas vraiment le cas dans d'autres pays. Et parfois, c'est une technique qui est complètement intégrée, comme par exemple en Nouvelle-Zélande, c'est ça ?
Quand tu me parlais, le lombricompostage n'est pas la solution à tout, c'est la solution pour les matières organiques. Donc, de manière plus générale, des pays comme la Nouvelle-Zélande pensent les déchets autrement. Pensent les déchets pas comme quelque chose qu'il faut jeter, brûler, on n'en parle plus, mais comme quelque chose qui va nous resservir dans l'économie circulaire.
Il faudrait s'inspirer, par exemple, du modèle néo-zélandais pour notre traitement des déchets à nous ?
Faudrait créer notre modèle parce que c'est pas les thématiques. À l'arrière, on peut plutôt s'inspirer de choses plus proches.
Comme par exemple, qu'est-ce qui pourrait nous inspirer pour que ça aille mieux ? Parce que tout à l'heure, tu disais, oui, il y a un problème du traitement des déchets.
Il y a des villes qui sont engagées dans le zéro déchet. La plus connue, c'est San Francisco. Il y a un mouvement mondial qui s'appelle Zéro Déchet, dont on fait plus ou moins partie.
Ouais, avec l'association Eusénia.
Nous, effectivement, on est vraiment concentré sur la matière organique, mais le principe reste toujours le même. Et donc, effectivement, dans la ville la plus connue qui a fait ça, vraiment à grande échelle, et preuve que ça marche, c'est San Francisco. Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais en gros, San Francisco, ce qui va à l'incinérateur, ce qui n'est pas utilisé, c'est quelque chose maintenant aux alentours de 10%.
Mais alors, pour résoudre ce problème du traitement des déchets, qu'on prenne tel ou tel modèle, il faut surtout changer les mentalités. Parce que voilà, il y a un problème aussi d'éducation à l'écologie. Et justement, avec l'association Eusénia, pour sensibiliser le public français au lombricompostage, mais pas que, vous menez des ateliers en milieu scolaire, c'est ça ?
Oui, bien sûr. Bah, c'est un peu un terme un peu bateau, mais c'est les citoyens de demain qu'on forme.
Bah oui, c'est
et
sûr.
C'est vrai qu'assez souvent, la parole rapportée par les enfants au niveau de leurs parents fait qu'on a souvent des retours comme quoi les parents s'intéressent à ça parce que les enfants leur disent. Et puis même au niveau des poubelles de tri classiques, souvent c'est les enfants maintenant qui disent à leurs parents « Ah non, ça tu dois pas le mettre dans cette poubelle-là, mais dans cette poubelle-là. »
Alors, ils ont quel âge vos citoyens de demain que vous formez en
On a testé en crèche, donc ils ont entre 2 et...
Ah, vous commencez tôt, hein,
mais... Oui, c'était une petite tentative, ça s'est super bien passé. En fait, en crèche, ils arrivent à comprendre la même chose qu'on essaie d'expliquer aux adultes, c'est-à-dire que jette pas ça dans telle poubelle, donne-le à manger aux vers de terre qui te fera pousser tes plantes avec. C'est bateau.
Ça, ça doit bien leur plaire en plus, les vers de terre. Sûr, quand on est petit, on aime bien jouer avec ça. Enfin...
Ça leur plaît. Après, c'est vraiment intéressant à faire en primaire parce qu'il y a déjà un peu des notions scientifiques qui commencent à rentrer en compte. Voilà. Et on va bientôt passer sur le collège.
Donc, ça, c'est le projet plus ou moins court terme, du coup, aller au collège pour faire ses ateliers. Et sinon, vous avez d'autres projets, notamment des projets de réinsertion alternative que vous menez en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, j'ai vu. C'est quoi votre rôle dans ces projets ?
C'est des projets qui sont en train de se mettre en place, qui sont pas assez peu sont arrivés à maturation concrètement, mais l'idée globale, il y a deux idées globales. Il y a une première idée globale, générale qui est que l'écologie, ça ne doit pas être uniquement réservé aux gens bien portants qui ont le temps de penser à ça. À la base, l'écologie, c'est aussi faire une économie de moyens. Et la deuxième chose, c'est que c'est des métiers assez innovants qui sont un petit peu techniques, certes, mais qui ne sont pas non plus... c'est des choses qu'on peut assez facilement apporter, faire à des gens en réinsertion. Sur les villes comme San Francisco, justement, où il y a Barcelone qui est en train de s'y mettre d'une certaine façon, on s'aperçoit que si on pense les choses différemment, oui, il y a une période de transition où les villes vont peut-être perdre un peu d'argent, mais à long terme, tout le processus va coûter moins cher en ayant produit des emplois et notamment des emplois qu'on peut proposer à des gens précaires. C'est vraiment ce qui se passe, ce qui est en train de se passer à San Francisco. Voilà, il faut juste avoir cette idée-là en tête que penser les choses différemment, plus penser ça comme un problème mais comme une source de revenus. Voilà. Donc du coup, nous on est là-dedans et avec la Fondation Abbé Pierre, les partenariats qu'on va avoir, c'est qu'effectivement ils nous subventionnent, ils nous aident au démarrage et le but c'est qu'assez vite on prenne des gens pour faire de la réinsertion. Et aussi, autre chose, autre volet social.
Oui, parce que c'est très important pour vous la dimension sociale liée à l'écologie.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et donc autre volet ?
Donc autre volet, ça va être aussi, on commence à travailler avec des bailleurs HLM qui ont souvent des gros problèmes au niveau des déchets, etc. Ouais.
Alors petite pause musicale sur Transistor avec une chanson de Circonstance signée Louis Chédid. Et je sais qu'elle plaira tout particulièrement à Florent qui adore mes playlists. Louis Chédid sur Transistor.
J'aurais pu naître vers de terre, pourquoi pas ? Descendre d'un coléoptère, tralala, tralala. J'aurais pu vivre sans m'en faire, pianissimo, en creusant des trous sous la terre, incognito. Mais me voilà, avec mon âme, animal.
Alors Florent, toi aussi tu aurais pu descendre d'un coléoptère, tralala.
Non, moi, j'aurais voulu être un artiste.
Bon, allez, des questions rituelles maintenant, Pierre, si vous le permettez. Pourquoi vous avez choisi cette association et pas une autre ?
Bah, surtout, j'ai participé à le monter. En fait, l'agriculteur dont je parle, l'Ombriplanète, c'est un vieil ami. Et voilà, quand il a commencé à s'intéresser aux vers de terre, je m'y suis intéressé aussi. Et puis, au bout d'un moment, on s'aperçoit que il y a quelque chose à faire là-dedans.
Ouais. Et du coup, on y reste et on y prend des responsabilités, etc. J'imagine bien. Alors, en quelques mots, comment vous définiriez cet engagement associatif qui est le vôtre ?
J'ai juste dû s'emmerder à prendre du temps, se speeder comme si c'était un boulot sans être payé. C'est bien, hein ?
Bah, pourquoi pas ? C'est une définition non, comme mais une c'est autre.
Surtout, mais c'est surtout participer à quelque chose de bien, de collectif. Peut-être qu'on va très mal finir, peut-être que l'humanité va aller à un point où on ne voudrait pas qu'elle aille, mais au moins on aura participé à cette chose-là.
Voilà, joie, bonne humeur sur Transistor. Un petit jingle et je vous laisse Pierre entre les mains de mes gones.
Jean-Pierre ? Je vais répéter la question.
Si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu ?
Je vous demande de vous arrêter.
When do you get to that point of enough is enough?
Never.
Pierre, les gones ont des questions absurdes, provocantes, mais ils vous les posent quand même, et en commençant par Marie.
Je suis allée voir votre site internet et je reconnais que j'aime bien la manière dont il est écrit. C'est un ton un peu un peu jeune, un peu branché, un peu cool, familier. Est-ce que vous craignez pas quand même pourtant que vous aliéniez une partie du public que vous pourriez toucher avec ce ton-là, le ton sur lequel est rédigé le site, qui fait a priori pas forcément très sérieux?
Ouais, c'est un peu comme ça qu'on est à la base. En même temps, si on le faisait très sérieux, on perdrait une autre partie du public. On essaie de faire le mélange, c'est-à-dire qu'on le ton est effectivement comme ça, et par contre, on essaie de reprendre des informations qui sont justes. Voilà.
Alors, une fois n'est pas coutume, chers auditeurs, peut-être est-ce lié à notre jeu des chaises musicales du 1er avril quand Florent présentait l'émission et que j'étais chroniqueur. Mais j'avais envie de vous poser une ou deux questions quand même, de Gone, moi aussi. Ezenia, c'est donc une association écolo. Il faut être encarté à Europe Écologie Les Verts pour y entrer ?
Non. Non, le terme association écolo, c'est un peu réducteur. Effectivement, écolo, on pense les Verts, et puis avec souvent des blagues qui vont avec, justifiées ou pas. Mais non, du coup, ça n'a rien à voir.
Plus sérieusement, comment vous jugez l'écologie politique, vous qui êtes quand même dans une association qui milite dans un domaine lié à l'écologie ?
C'est vraiment bien que ça existe, puisque malheureusement les autres partis ne mettent pas ça beaucoup sur le devant de la table. Après, ça reste un parti politique. Il y a des
Duflo qui n'en finit plus d'écrire des livres, des tweets pour cracher sur tout ce qui bouge, de socialistes encore vivants et de préférence au gouvernement. Cos qui est encore plus aimable et chaleureuse dans les médias que Carole Rousseau quand elle présentait Masterchef sur TF1. La nouvelle génération des écolos en politique, ils sont chiants, ils le font exprès.
Mais tu
répondais, les Français veulent savoir.
Les Français veulent savoir. Non, mais en fait, je sais pas quoi dire. Parce que tu pourrais me dire ça pour n'importe quel parti. En fait, c'est exactement pour ça que je fais pas du militantisme politique, mais de l'associatif. Il y a effectivement des histoires d'ego. Il y a effectivement tout un tas de choses comme ça. Mais tu m'aurais dit ça pour n'importe quel parti, on aurait pu trouver les mêmes choses.
Donc, c'est pas faux.
Je botte un peu en touche, on va dire.
Un peu de mauvaise foi de ma part pour faire des bons mots, et lui aussi il en fait des bons mots. Il est jamais chiant, il est écolo aussi. C'est notre Florent, il a une question de gonne pour vous, Pierre.
Moi j'avais une question juste très pratique. Ça ressemble à quoi à la fin ?
Quand c'est très bien suivi, à la fin c'est une espèce de terre très fine qui sent rien, c'est une matière stable, c'est de la terre que même les gens qui trouvent ça vraiment dégueulasse, la terre, ils trouvent ça mignon presque.
Est-ce que tu trouves ça dégueulasse, la terre, Marie ? En tout cas, t'as une question, non ?
Alors j'ai pas de réticence et de répugnance particulière pour la terre. Alors par contre, je voudrais savoir, si je me mettais à faire du lombricompostage chez moi, j'ai pas énormément de plantes chez moi, j'ai un appartement, j'ai juste un bambou, donc ça m'étonnerait que je puisse lui foutre du compost dessus. Sur votre site, vous dites qu'on peut aller faire du compostage sauvage et aller donner de la terre, par exemple, à des arbres dans les espaces publics. Vous l'avez déjà fait, ça, le terreau sauvage?
Oui, au tout début, oui, effectivement. Maintenant j'ai trouvé mes filières de voisins à qui je donne du lombricompost. Mais pareil, moi, je suis aussi en appartement, j'ai 4 fleurs. Donc, ma première récolte, effectivement, au bout d'un an que je l'ai laissé dans ma cave, je suis allé le foutre au pied des arbres, malade de la place en bas de chez moi.
Pas d'ennui avec les flics ou...
Attention, vous avez nourri cet arbre.
Je sais pas qu'est-ce que peut dire la loi dessus. Après, effectivement, je suppose que quand on est au commissariat et qu'on dit « oui, ben, j'ai remis de la terre sur de la terre », je suppose qu'on ne peut pas avoir beaucoup de problèmes avec ça. ou alors le monde est vraiment dans un sale état.
C'est sur cette note d'espérance policière que nous allons nous quitter, Pierre. Merci d'être venu nous parler de votre association Ezenia. C'est la fin de cette émission. Merci de nous être si fidèles, hein, chers auditeurs. Merci à Clément pour les jingles, ainsi qu'à ENS Media et plus particulièrement aujourd'hui Mehdi pour la technique. Je vous donne rendez-vous le vendredi 24 avril, hein, vous le savez. Certainement, j'espère. C'est la journée de la radio, le vendredi 24 avril, 4e édition de conférence. Une exposition autour d'un thème, cette année le corps à la radio. Et puis toute une journée de live, surtout. Les gones hein, seront donc évidemment de la partie, vous pensez bien, en direct de 17h à 18h, en public depuis le Théâtre Cantor et en vidéo, parce qu'on a quand même bien aimé l'expérience du 25 février dernier. pour l'occasion, Florent nous abandonne parce que vous comprenez, la journée de la radio, c'est bien trop surfait. Tu seras au Liban, c'est ça ?
Exactement. Un reportage depuis Daesh. Je vous enverrai ma chronique, normalement.
Mais tu nous écouteras.
Une interview d'Aboubacar Al-Baghdadi avec humour, impertinence, tout ça.
Alors, si vous voulez entendre parler de Daesh en transistor, il y a les numéros de LMNSP, hein, Le Monde ne suffit pas, qui sont sortis avec Céline et moi-même. Mais tu vas nous écouter quand même, Florent. 24 avril, depuis le Liban.
Je sais pas s'il y a internet, tu sais, c'est quand même un pays arabe.
Bon, et toi, Marie, tu seras là, toi ?
Oui, toujours.
Mais oui, tout le monde sera là, sauf Florent. Et Tatiana sera peut-être même de retour pour l'occasion. Bref, on a hâte. Mais d'ici là, surtout, n'oubliez pas, dans Lyon, faites des conneries.